Alors, je suis avec David Luponis, vous êtes associé cybersécurité chez Mazars. Bonjour David, alors nous allons faire le point sur le RGPD un an après. Alors, j'ai écouté la radio ces derniers temps et ce que j'en ai compris, c'est que tout était merveilleux. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors bonjour Yann. Alors est-ce que tout est merveilleux? Non. Ce qu'on voit depuis là on vient de fêter les un an, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est une réglementation qui date de 2016. Les entreprises européennes avaient 2 ans. Enfin, les entreprises avaient 2 ans pour se mettre en conformité. Donc c'est un sujet qui a un peu plus d'un an aujourd'hui, enfin qui finalement a 3 ans aujourd'hui. Les impacts, ou en tout cas ce qu'on voit sur le marché, c'est que comme c'est une loi, un règlement européen, il y a évidemment des interprétations de chaque pays qui peuvent être un peu différentes, avec des pays qui étaient très en avance de manière historique, notamment en Allemagne, et puis évidemment un certain nombre de pays qui ont découvert en 2016 des sujets de protection des données. Et donc aujourd'hui, tout ça se traduit par une grande hétérogénéité au niveau européen de ce qui se passe en termes de suivi de cette réglementation. Ça, c'est une vision pays, et puis après, il y a une vision industrie. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un certain nombre d'industries étaient relativement mûres sur ce sujet. On parle notamment des banques et des assurances, qui pour la plupart avaient déjà avancé sur ces sujets quand ça s'appelait informatique et liberté. Et donc les banques et les assurances sont plus en avance en moyenne que les autres types d'industries qui, pour certaines, dans l'industrie lourde par exemple, ben, découvraient en 2016 le sujet, ou en tout cas mettaient ce sujet à l'ordre du jour. Donc il y a une vraie déclinaison par type d'industrie, une vraie
Alors,
maturité qui est plus avancée.
cette hétérogénéité par pays, pour revenir sur le premier point, comment se situe la France à l'intérieur de ce panel?
Alors, la France était un des pays, avec la loi informatique et liberté, l'un des pays en Europe qui était le plus avancé sur ces sujets. Les entreprises françaises auraient dû, depuis 1978, faire un certain nombre de déclarations auprès de la Commission nationale informatique et liberté, ou devaient tenir un registre en interne avec un correspondant informatique et liberté. Toutes les entreprises ne se sont pas lancées dans l'aventure, donc le socle législatif français ou réglementaire français existait déjà. Après, un nombre assez limité d'entreprises suivaient à la lettre la loi. Pour les autres, le mai 2016 et mai 2018 ont été une vraie nouveauté.
Mais alors, si on devait mettre un curseur sur 100% des entreprises françaises, tout mouillé, on reviendra sur les PME et les grandes entreprises plus tard, on en est où? Le curseur, il est plus près de zéro ou il est plus près de 100%?
Alors le curseur, il doit très probablement être autour de 50 ou 70% pour les grosses entreprises, les grandes entreprises, et certainement autour de 20 ou 30% pour le reste des entreprises. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas déterminer, il n'existe pas en fait une matrice de conformité pour dire je suis conforme ou je ne suis pas conforme. C'est pas aussi simple que ça. Il y a un ensemble de critères et chaque entreprise se lance ou s'est lancée depuis 2016 et depuis 2018 dans la mise en conformité. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous délivrer un certificat de conformité, par exemple. C'est pas des choses qui se font en France. Donc en fait, il y a aujourd'hui pas de matrice qui permet de dire je suis conforme à hauteur de 72% ou à hauteur de 90%. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont lancées dans l'aventure et elles mesurent leur conformité comme ça, en fait.
Alors, si on parle d'impact du RGPD, on devrait aussi être capable, je suppose, de montrer des cas concrets où la loi a permis de redresser certains torts.
Oui, alors il y a, je crois, 3 ou 4 cas uniquement en Europe pour l'instant, enfin, en tout cas de pénalités qui ont été données ou de sanctions qui ont été données. Il faut rappeler que le règlement enfin, indique des sanctions assez fortes en cas de non-respect de ce règlement. C'est pour ça que les entreprises ont réagi. On parle d'amendes, de sanctions pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, évidemment, si vous prenez des très grandes entreprises ou européennes ou internationales, quand vous mettez 4%, ça fait des chiffres qui font tourner la tête. Et aujourd'hui, en fait, en Europe, il y a eu, de mémoire, 4 cas de sanctions. Le premier cas de sanction est au Portugal, pour un hôpital qui a pris une amende de mémoire de 400 000 euros. Il y a eu une sanction en Allemagne sur un réseau social allemand. Il y a eu la semaine dernière, en fin de semaine, une petite amende qui a été donnée en Belgique. Et puis finalement, le gros cas d'école est le cas Google qui a écopé d'une sanction de 50 millions d'euros en France. Voilà les quatre cas qui ont été jugés. Ça laisse à penser que d'autres cas sont en cours de traitement ou d'investigation et que ça donnera peut-être dans le futur d'autres sanctions publiques. Mais ça, c'est les quatre sanctions publiques qui ont été données par des autorités européennes.
Et ça représente beaucoup, d'après vous, 50 millions d'euros pour Google?
Si on en croit leurs chiffres, c'est sûrement moins de 4% de leur chiffre d'affaires. Après, c'est un règlement, voilà, ce qui est affiché, c'est une sanction pouvant aller jusqu'à 4%.
D'accord. Et à l'origine, on a présenté cette loi comme justement un moyen de se protéger contre les abus, notamment des fameux GAFAM. Mais finalement, si j'en comprends votre rapport, Portugal, ce n'est pas les GAFAM, l'Allemagne, ce n'est pas les GAFAM, et la Belgique non plus, il y a juste Google, quoi. Et pourquoi uniquement en France, d'ailleurs, Google?
Alors, les enquêtes sont menées par les différentes autorités de contrôle dans chacun des pays de manière indépendante. Donc, en fait, la France a visé certainement pour un tas de bonnes raisons Google, mais elle a peut-être visé aussi un hôpital public, elle a peut-être visé aussi un industriel français ou un industriel européen. Il n'y a pas de focus. En tout cas, le règlement ne fait pas un focus contre ces GAFAM. Ce que rappelle le règlement ou ce que vise en fait le règlement, c'est de protéger les données personnelles, notamment des citoyens européens ou en tout cas des gens qui transitent par l'Union européenne. Donc, c'est effectivement lutter contre les abus de marketing direct tel que ça se faisait avant, de détournement de trafic ou de détournement de revente d'informations d'un partenaire à un autre. Voilà ce que vise avant tout le règlement et surtout le fait que le citoyen va reprendre la main sur la manière dont sont gérées ses données chez ses prestataires.
D'accord. Mais en fait, ces cas d'école ne montrent pas en fait un véritable état des lieux. C'est plus le résultat des investigations, peut-être même parfois un peu partiales, qui ont été menées dans tel pays ou dans tel autre.
Alors c'est des résultats, c'est des premiers résultats d'investigation. Donc, on ne peut pas en tirer énormément de conclusions à ce jour. Il y a certainement fort à parier que un certain nombre de gros acteurs européens ou internationaux font le travail correctement, des gros ou des petits, qu'un certain nombre d'acteurs qui ont été pris dans ces investigations font le travail correctement. Après, comme on l'a dit au début, c'est très compliqué de devenir conforme à 100%. De toute façon, une fois de plus, il n'y a pas cette matrice de conformité. Et c'est assez, je dirais pas simple, hein, mais c'est compliqué pour une entreprise d'être complètement conforme. Et donc, évidemment, il y a des trous dans la raquette. Et évidemment, un observateur ou un investigateur va pouvoir potentiellement trouver un certain nombre de points qui ne seraient pas conformes.
Vous parlez de l'objectif initial de la loi qui était de se focaliser sur les abus de marketing direct. Alors, on a eu un cas récemment, il y a quelques jours pendant quelques jours pendant comment dire, la campagne électorale de marketing direct par téléphone, réalisé y compris par un parti assez proche du gouvernement d'ailleurs, si j'ai bien compris. et d'autres, puisqu'il y en a plusieurs qui ont utilisé les mêmes services. Je ne l'ai pas entendu dans les gens qui sont épinglés par la loi. Et aussi, quand on regarde autour de soi et qu'on demande des témoignages, et puis qu'on regarde même sa propre boîte mail, par exemple, je n'ai pas la sensation d'avoir vu fléchir le marketing indirect indélicat, les gens qui vous inscrivent alors qu'ils n'avaient rien demandé. Qui vous envoie des emailings sans autorisation. J'en ai vu encore une best practice là, il y a quelques semaines avec un lien blanc sur un fond blanc pour se désabonner. Quand il y a encore un lien de désabonnement, parce qu'il y a encore, et des grands acteurs, hein, je parle des grands acteurs, hein, qui arrivent à vous envoyer des emailings sans lien de désabonnement. Donc, j'ai pas la sensation, je me trompe peut-être je suis biaisé, hein, que finalement l'objectif ait été atteint.
Ah, effectivement, c'est enfin, la votre vision, c'est la vision qu'a la plupart des gens finalement, en se disant que ce qu'on leur annonçait il y a 1 ou 2 ans, c'était l'arrêt des mails intempestifs, l'arrêt des mails pour essayer de vous vendre des voitures, des chaussures ou des fenêtres. Et on fait le constat qu'aujourd'hui, on continue à recevoir ce genre de sollicitations. Ce qu'on note quand même, c'est que chez les grands acteurs, vous avez la possibilité en tant que Français ou Européen de faire une demande d'information, une demande de suppression. Et ça fonctionne plutôt bien. Et il y a énormément de demandes qui sont faites auprès des qui sont réalisées auprès des sites web ou des marchands. Et ça, c'est une vraie évolution. C'est l'une des choses qui a été le mieux, je pense, intégrée par les entreprises. Ce qui était beaucoup plus compliqué par le passé. Mais c'est vrai qu'on continue à recevoir un certain nombre de mails intempestifs. Ça devrait diminuer parce qu'évidemment, quand les contrôleurs européens vont commencer à mettre de plus en plus de sanctions chez des gens qui revendent des fichiers, parce que ce dont vous parlez, c'est finalement de la revente d'informations personnelles, bah, quand ces gens-là vont être sanctionnés 1 fois, 2 fois, 10 fois, en plus de devoir avoir une information publique, enfin payer la sanction et surtout avoir une information publique sur la sanction, bah, ces gens-là au bout d'un moment vont certainement arrêter. Enfin, le business model de ces sociétés va plus être viable.
Mais finalement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. On resserre la loi sur les utilisateurs, entreprises, j'entends, qui font du marketing direct. Mais en même temps, à côté, peut-être même à côté de moi d'ailleurs, il y a des gens qui vendent des adresses e-mail. Et en plus, qui vous les vendent comme étant des adresses e-mail, ouvrez les guillemets, opt-in, fermez les guillemets. Ce qui est assez extraordinaire. Est-ce que ce ne serait pas plus simple et un petit peu moins coûteux d'un point de vue législatif de s'adresser à la source du problème plutôt qu'à la fin du problème?
Alors, en fait, dans le sujet GDPR, il y a un point très intéressant qui concerne le consentement. Si je suis prêt à consentir au fait que je vous donne ou prête mes données et que j'accepte que vous les revendiez ou que vous les re... Voilà. Vous n'êtes pas en infraction parce que je vous ai donné mon consentement. Et c'est là où on voit qu'en fait, la donnée, y compris la donnée personnelle, peut prendre une valeur. Dans certains exercices qui étaient faits entre 2016 et 2018, on estimait ou on envisageait qu'en fait, il y allait y avoir des petits malins qui allaient lancer des services de revente officielle de données personnelles. Typiquement, est-ce que le fait de vendre mes sports favoris ou les endroits où je vais en vacances, est-ce qu'il y a un business derrière ça en fait? Et on pensait en 2016-2018 que des services de cette nature allaient arriver. On n'est a priori pas arrivé jusqu'à là aujourd'hui, mais ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où je donne mon consentement, bah, vous pouvez traiter. Alors, mon consentement, il faut qu'il soit libre et éclairé, qu'on me donne un certain nombre d'informations et qu'il soit défini dans une temporalité. Mais à partir du moment où je donne mon consentement, bah, vous pouvez potentiellement traiter mes données à caractère personnel de manière, effectivement, à des fins marketing.
Alors, si on fait un peu de prospective, David, est-ce que comment vous voyez la situation évoluer? Est-ce que ça va évoluer vers le mieux ou...
Alors, je pense que on voit depuis maintenant un an que de plus en plus d'entreprises se sont lancées dans l'aventure de la mise en conformité. Autour du 25 juin 2018, vous avez reçu de la part de l'ensemble de vos partenaires et prestataires des dizaines et des dizaines de mails vous expliquant la manière dont ils allaient gérer ou dont ils géraient vos données à caractère personnel. Ça leur a fait franchir un pas. Et je pense qu'en fait, le GDPR, il n'a pas pour vocation d'être inscrit à un instant T. C'est un process long d'entreprise, un process de conformité. Les entreprises anglo-saxonnes connaissent ça par cœur. C'est l'intégration de nouveaux process de contrôle dans la vie de l'entreprise. Et donc, il y a fort à parier que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ces process autour du règlement seront beaucoup plus intégrés dans la vie courante de l'entreprise. Et on pourra noter à ce moment-là une plus grande conformité par rapport au règlement et aux traitements un peu particuliers qui sont faits. Donc, il y a fort à parier que ces mails pour vous vendre des voitures, des chaussures ou des fenêtres, parce qu'un jour vous êtes connecté sur le site de bricolage du coin, vont quand même largement diminuer. On revient à la valeur de la donnée. Vos données personnelles vont prendre encore plus de valeur qu'aujourd'hui, parce que les marchands en tout genre vont chercher à acquérir cette donnée de manière légitime. Avant, ils arrivaient à l'acquérir de manière illégitime. Peut-être que demain, il y a un business qui va se lancer sur l'acquisition légitime de ce genre de données. Ou en tout cas, légitime avec un consentement.
D'accord. Et je vais...